Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous. C'est parti Fabien, on va passer une heure ensemble. Je suis ravi de faire cette interview parce que dans les brigadeurs des premiers jours, tu fais partie des premiers visages que j'ai croisés quand la boîte était vraiment toute petite. Donc peut-être juste pour que tout le monde sache qui tu es, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes et un peu expliquer ta position chez Brigade so far?
Yes, merci beaucoup pour l'invitation quand même. Du coup, je m'appelle Fabien Le Fliou, j'ai 31 ans, je n'ai pas encore d'enfant, et du coup, j'ai passé 6 ans, un peu plus de 6 ans chez Brigade, et j'ai fini VP Sales Europe sur le segment Hospitality. Et du coup, je m'occupais de toutes les équipes sales, donc il y avait à peu près pratiquement 40 personnes sur la France et le UK et sur le secteur de la restauration avec une segmentation avec du small, medium et du grand compte en termes de business. Donc, animation des équipes commerciales et puis d'autres fonctions comme support, comme sales enablement, etc.
Bon, on va revenir sur ce rôle un peu chapeau, mais... Avant ça, t'as occupé beaucoup de positions chez Brigade, t'as grandi avec la boîte, et on va revenir un peu sur toutes ces étapes. Peut-être juste pour qu'on comprenne un peu, plutôt background, j'imagine, sales, commercial. Toi, tu grandis où? C'est quoi un peu ton histoire du début?
Alors moi, je grandis en banlieue est parisienne.
Ouais.
Enfance joyeuse, très très sympa en plein air, pas mal de forêt, etc. Donc je fais collège, enfin primaire, collège, lycée là-bas.
D'accord.
Et après le lycée, j'hésite pas mal entre école de commerce classique, voire avec ou sans prépa. Et puis ma sœur avait fait Dauphine, enfin était encore à Dauphine.
D'accord.
Du coup, ça semblait être le bon compromis entre l'école de commerce post-bac et puis l'école de commerce avec prépa. Et du coup, j'ai fait mon dossier, j'ai été pris à Dauphine sur plutôt.
Donc tu fais quoi, éco-gestion là-bas?
Ouais, exactement.
Ok, donc tu fais un Doug à l'époque, j'imagine.
Ouais, c'était déjà, ouais.
Ça
a changé depuis.
Ok. Ouais. Et donc, tu fais tout ton cursus à l'université là-bas?
Exactement, ouais, les 5 ans.
Les 5 ans, d'accord. Ouais. Et tu finis par quoi? Par quel type de master?
Je finis par un master en business international et management. Assez, pareil, assez ouvert, mais assez intéressant parce qu'on était une promo très internationale.
D'accord.
Tout en anglais. Et du coup, ça, c'est ce qui m'a aussi mis le pied à l'étrier, je pense, à vouloir travailler dans un environnement assez international.
Ok. Et là, à ce moment-là, en fait, donc les premiers stages que tu peux faire, que tu fais à cette époque, c'est dans quel domaine? C'est la belle époque de la finance de marché. Est-ce que tu es attiré par ça? Pas du tout, toi, ou...
Ouais, non, pas du tout.
Okay.
Attiré plutôt par les startups, en fait, où je suis pas mal l'actualité. Et en fait, premier stage qui a vraiment mis, enfin, c'est la petite graine, c'était chez un ancien de Dauphine, Paul de Préville, qui avait monté à l'époque You Should.
Ouais.
Et du coup, je fais un stage de 4-5 mois, vraiment au tout début. Donc entretien dans l'appartement et ils étaient 3-4 pour développer la partie commerciale.
Et ça faisait quoi, YouShould?
YouShould, c'était de la réservation de bar.
Okay.
Donc, pour des groupes.
Donc un privatiseur avant l'heure.
Exactement, ouais. Okay. On lançait pratiquement en même temps privatiseur, mais YouShould s'était concentré plutôt sur le B2C.
Ok.
Privatiseur sur le B2C.
Ok. Et donc là, tu fais tes armes sur tout faire avec une petite boîte, peu de moyens.
Exactement. Je découvre un peu cet environnement hyper dynamique. Moi, je rentre chez YouShould en stage. On était 3-4. Je ressors, on est une quinzaine. On a changé déjà 3 fois de locaux. Et du coup, je me dis, waouh, c'est prenant et c'est concret. On voit que ça avance. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper dynamique et hyper impressionnant à vivre.
Et t'enchaînes, tu continues, tu fais un autre stage dans ce domaine-là ou...
Alors non, pas du tout. En fait, fais virage un peu à 180 degrés et je fais une alternance chez Total,
OK.
qui a rien à voir, mais je me suis dit, bon, la startup, je sais que ça me plaît, mais j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe dans les grands groupes pour voir si je passe à côté de quelque chose. Et du coup, je me retrouve vraiment en alternance chez Total,
À la défense?
à la Défense, enfin à Nanterre,
C'est un peu moins sexy.
voilà, très très différent. Bien sûr, il y a des bonnes choses, mais assez vite, je me rends compte que bah voilà, je retrouve pas la même dynamique. Beaucoup de choses sont assez figées. C'est trop long et du coup, je m'y retrouve pas. Passer l'équilibre de mon côté.
Et tu fais quoi là-bas?
Là-bas, je suis en gestion de projets digitaux.
OK.
Donc du coup, il y a une implémentation d'un nouvel outil et je m'occupe de l'implémenter au sein de Total France et puis des différentes filières.
Donc tu restes un an?
J'ai faim, ouais.
Waouh, c'est long.
Tout à fait, ouais.
Et donc là, t'es quoi? T'es en quatrième année,
Cinquième année, ouais.
cinquième année.
Dernière année.
OK. Et donc là, après, il faut bosser.
Après, il faut bosser.
Et donc tu décides de faire quoi?
Du coup, bah, je décide de retourner à mes premiers amours. Du coup, je regarde essentiellement les jobs en start-up et je veux vraiment, enfin, un des critères, c'était vraiment start-up early stage, moins de 10, moins de 20. Enfin, je voulais vraiment arriver au début de l'aventure. Ça, c'était un critère aussi hyper important, prendre un peu la vague et puis me challenger pour grossir avec la boîte. Et du coup, je me mets à screener tous les, alors c'était Frenchweb à l'époque, Madines, etc. Mais à regarder un peu tous les articles, pas tomber sur des sites de recrutement où il y a déjà les plus grosses startups qui y sont, mais vraiment voir les premières levées de fonds
D'accord,
possibles, etc.
ok. Et donc, tu identifies combien de boîtes et tu passes des process avec quelle boîte?
Ah, pas tant que ça. J'avais passé à l'époque des process avec Tiller.
Ouais.
J'avais passé des process.
Toujours dans la restauration quelque part.
Ouais, exactement. J'avais fait Tiller, j'avais fait une autre boîte, j'ai plus le nom en tête, et Brigade.
Ok.
Et en fait, bah, j'ai plutôt beaucoup de chance parce que Brigade avait été un bon match.
Et toujours sur des postes de sales,
Ouais.
ok.
Ouais,
Et tu sais que tu vas. Pourquoi? Parce que tu aurais pu faire de la gestion de projet, tu aurais pu faire
ouais.
d'autres sujets. Pourquoi est-ce que tu dis je vais vendre finalement une solution et c'est là où finalement j'ai créé le plus de valeur?
Parce que ouais, je voulais être sur le terrain, je voulais me confronter, enfin, ça, c'est vraiment le challenge d'aller vendre une solution en plus assez nouvelle qui démocratisait un marché. Enfin, c'est vraiment des choses qui m'attiraient et ouais, du coup de me confronter à ça et d'être un peu vraiment moteur sur la partie business, quoi,
Super, parce
sûr.
que souvent, finalement, même les profils de Dauphine, t'as le côté un peu, tu sais, faire de la vente, c'est un métier pas forcément pour des gens qui ont fait des études brillantes. Enfin, et toi, tu prends le contre-pied, tu dis, bah non, en fait, il y a un produit tech, il faut le vendre,
Ouais.
autant s'y confronter.
Ouais, et en fait, j'avais aussi l'ambition derrière voilà, monter des équipes, etc. Et du coup, en fait, c'était essentiel de passer par du terrain, de vendre la solution avant demain de gérer des équipes.
D'accord. Et donc, si je refais le lien un peu avec ta sœur dont tu parlais, ton tissu familial, toi, tu as des gens qui ont fait du sales dans ton environnement ou pas du tout ou...
Non, non,
Non?
non, même pas, non, non, pas forcément, mais
Ok.
c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait. C'est vrai que ce stage que j'avais fait chez YouShould, où la gestion de son pipe, de faire avancer les deals, etc., j'avais trouvé ça très challengeant, mais assez excitant. C'est un peu les montagnes russes, quoi, mais dans les phases où ça va bien, c'est sympa.
Donc là, tu rejoins un brigade. Ils sont combien à ce moment-là? Parce que là, si c'est au tout début.
Tout début, je rejoins Brigade, il devait être 5-6.
Ah ouais, donc il n'y a
Ouais.
que les techs,
Il n'y a que
finalement.
les techs,
D'accord.
exactement. Une ou
Donc
deux personnes sur la partie plutôt Ops.
Grisha,
Ouais,
notamment,
Grisha, tout à fait.
que j'ai interviewé hier.
Exactement, ouais.
Ok, donc Jean, bien sûr, Flo. Et donc toi, tu vas épauler Flo pour vendre du brigade, quoi.
Ouais, exactement.
Donc toi, tu as vécu toute la période SMS,
Complètement, ouais.
craft, hacking du trouver des solutions pour aller super vite et vendre des solutions. Comment ça se passe? Parce que Julia qu'on a eu aussi nous disait que elle avait vendu du SMS à des restaurants. Donc toi tu t'y es collé aussi?
Complètement, ouais.
Et comment ça se passait? Comment t'es arrivé à convaincre finalement les restaurateurs au début de dire voilà, on va vous trouver du staff via une solution et vous faisiez tout à la mano derrière quoi?
Ben, on joue vraiment sur la réactivité. la facilité pour le restaurateur de faire appel finalement à un talent et du coup de dire bah fais-nous confiance entre guillemets, si on trouve personne ça ne coûte rien et si on trouve quelqu'un bah on t'assure que ça sera la bonne personne et du coup t'as rien à faire, tu peux tester sur 4-5 heures, c'est pas engageant et du coup c'était vraiment le bah, en fait faut faire confiance, teste-le une fois et tu verras enfin ça va t'aider dans ton quotidien de restaurateur qui est
Et puis rapidement, ça marche. Finalement,
Ah ouais, complètement, ouais.
les gens adhèrent et finalement, vous commencez à faire des
Alors,
staffs.
et nous, en interne, c'est assez simple, parce que moi, je suis arrivé précisément le jour où ils ont appuyé sur le bouton pour mettre en ligne la version bah, avec le business model actuel.
OK.
Et du coup, ils switchaient, je crois que c'était un abonnement avant. Donc, c'était vraiment le test de est-ce qu'on va réussir à convertir les utilisateurs qui utilisaient ça complètement gratuitement ou avec un petit abonnement en utilisateurs qui vont mettre leur carte bleue et puis payer les shifts d'indépendants quoi. Donc c'était un peu puis on voyait petit à petit le volume monter et le nombre de shifts augmenter, c'est assez impressionnant.
Et l'équipe sales, finalement, c'est l'une des équipes qui a grossi très vite. Donc, il y a eu 50 Partners au début, puis après, il y a eu un tour d'investissement de Seed, Serena un peu plus tard. Comment toi, ton rôle, il évolue sur les 24 premiers mois entre finalement le moment où tu arrives et 2 ans plus tard, à quoi elle ressemble la boîte et quel devient ton rôle à ce moment-là?
Ouais. Bah moi je rentre au début pendant 4-5 mois vraiment du terrain à aller chercher un maximum de restaurants, à l'époque vraiment la cible un restaurant indépendant. Ensuite au bout de 4-5 mois on valide je sais plus si c'était un site ou même Precide, du coup un peu de financement qui permet bah, à la fois d'accélérer au niveau de l'équipe et de pouvoir recruter les premiers sales. Donc c'est là où en gros au bout de 4-5 mois je deviens sales manager je recrute ma première équipe une équipe assez vite hein, entre mars et septembre 7 sales
Ok.
donc
Donc là, tu te retrouves à faire du management déjà.
exactement ouais
Ok.
ouais
Et donc t'as le playbook de tes 4-5 mois finalement de vente. Et là, tu essayes de partager les best practices.
complètement ouais. On m'a pas mal sauvé, c'est que pendant 4-5 mois j'avais vraiment en tête, enfin pour moi c'était vraiment faut que je prouve bah, à Flo et à Jean que je suis bon profil pour demain prendre enfin monter mon équipe et pas qu'on mette quelqu'un externe là-dessus. Donc j'avais vraiment bien anticipé et ce qui m'a pas mal sauvé c'est que j'avais tout écrit, tout documenté sur les objections-réponses, les process, etc. Ce qui m'a permis bah, d'onboarder finalement beaucoup plus facilement des sales.
Ah, pas mal.
Et montrer aussi que c'était carré et qu'ils pouvaient me faire confiance pour bah, avoir mes premiers sales dans l'équipe.
Et à ce moment-là, tu reportes directement à Flo.
Ouais.
Donc, c'est lui qui vous définissez les KPI et toutes les semaines, vous avez un point pour savoir où vous en êtes dans le pipe.
Exactement, ouais.
D'accord. Et donc, et là-dessus, il est comment Flo? Il est plutôt challenging. Il est en mode, OK, il y a Carrefourgon. C'est quoi son management?
Non, assez challenging pour le coup, pas mal de rapports finalement assez proches au quotidien parce qu'on est dans le même bureau, donc il est au courant de ce qui se passe. En plus, à l'époque, on fait encore des meetings avec toute la boîte où vu qu'on est pas beaucoup, chacun à son tour bah, il évoque ce qu'il a fait cette semaine, là où ça avance, là où ça bloque, etc. Donc il y a une bonne collaboration, une bonne transparence. On sent qu'il faut accélérer. Ça c'est plus, ça permet aussi de fixer des objectifs assez ambitieux avec l'équipe.
Et quand tu deviens manager, donc toi, tu copie-colles la manière de faire ou c'est quoi ton style de manager? T'es en mode plutôt, tu donnes des objectifs et tu vois comment les gens se débrouillent ou t'es plutôt en mode, je fais des points tous les 2 jours, carotte, bâton, c'est quoi ton?
Ouais, non, moi j'aime bien en général, et je garde un peu ce style de management, c'est-à-dire de laisser, enfin de définir vraiment un bon cadre, ça c'est important, et après de laisser vraiment les équipes en autonomie, à prendre des risques, prendre des décisions eux-mêmes, parce que je pense que s'ils viennent en startup, c'est aussi pour pas être guidés de A à Z. Donc j'ai vraiment toujours laissé pas mal d'autonomie, toujours été disponible, ça c'est important, et le coaching c'est quelque chose que j'aime bien. Donc dès l'instant où je voyais que voilà il y avait une baisse de perf, etc., vraiment débloquer du coaching et aussi dans les moments où par contre bon, on sent que l'autonomie prend un petit peu trop de place et qu'on s'éloigne un peu des objectifs et puis de la mission primaire du sales, bah, pas hésiter quand même à montrer qu'il y a de la fermeté, que on est, même si c'est une startup, on n'est pas beaucoup, que c'est cool, que bah, faut bosser, qu'il y a des objectifs. Mais je pense en tout cas avoir le bon équilibre entre.
Et tu continues à vendre à ce moment-là pour montrer à tes acolytes que tu es le meilleur vendeur. Est-ce que tu gardes un esprit un peu compétitif ou tu es plutôt enabler et t'aides les autres à vendre?
Alors au début oui sur les deux trois premiers sales. Après dès que je dépasse trois quatre sales, en plus le recrutement il prenait énormément de temps, c'est vrai que j'ai plus de mal. Donc je continue à garder un lien direct avec nos grands comptes de l'époque pour vraiment bah, déjà continuer à enrichir cette relation et puis derrière pour rester bah, pour savoir toujours vendre le produit Brigade, avoir le bon pitch, etc. C'était assez important pour pas être déconnecté complètement de bah, finalement de la réalité sales et ne plus pouvoir faire un meeting sales au bout de 6 mois.
Sur la partie recrutement, qui est une partie toujours intéressante, qu'est-ce que tu cherches comme profil? J'avais rencontré un de tes sales, Paul, qui a évolué chez alors dans quelle boîte il a une boîte de software
C'était Tom, chez
Tom, pardon,
Mojo.
Tom, ouais, chez Mojo, qui était super fort. Et je disais, mais lui, putain, c'est un très très bon sales. Comment tu t'es staffé? Quel type de profil tu cherchais? Est-ce que tu cherchais finalement des copycats de toi avec finalement des profils école de commerce Dauphine, ou au contraire des morts de faim comme Tom? Enfin, c'était quoi tes personas?
Bah, en fait, j'ai vraiment essayé de mixer les profils. Enfin, je trouvais ça hyper important d'avoir une équipe sales complémentaire qui finalement un peu comme une communauté s'entraide et se fait progresser sans que ça soit toujours qu'on sent que ça va être toujours du manager. Et du coup, j'avais des profils bah, un peu entre guillemets peut-être identiques, donc très plutôt focus organisation, rigueur, voilà, qui faisait pas un volume énorme mais qui frappait au bon endroit avec la bonne approche. Et j'avais au contraire des profils plus en effet morts de faim qui étaient vraiment dans le conti et qui bah, s'arrêtaient pas toute la journée. Mais en fait c'était hyper important d'avoir ces profils-là parce que ça dynamisait l'équipe, ça permettait de voilà de mettre du challenge et du coup d'avoir un bon mix avec d'autres types de profils, moi. Et aussi important, c'est que je savais que assez rapidement, vu les prévisions de croissance, j'allais avoir besoin d'un middle management. Et du coup, j'avais vraiment pour ambition de réussir à trouver parmi cette première équipe de 7 personnes bah, un middle manager, voire un manager pour ouvrir d'autres villes, etc. Donc, j'essayais vraiment de déceler en chacun où il pouvait aller à 6 mois, 1 an.
D'accord. Donc ouais, donc ça a été une des bonnes pioches, ça a été finalement Julia qui elle a ouvert Lyon rapidement. Elle a montré une capacité à avoir un certain nombre d'autonomie. Elle évoquait le Nicolas Ferrari qui lui a confié l'ouverture de la santé pendant le confinement sur un épisode. C'était super intéressant. Toujours sur la partie évolution sales, il y a Serena Capital à un moment qui rentre dans l'equity story, qui injecte pas mal d'argent, qui à mon avis fait changer un peu la boîte de dimension. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'on essaye aussi de vous induire de nouvelles best practices d'un point de vue sales. Il y a Jérôme Caille, un moment qui vous aide. J'aimerais bien en fait que tu nous partages un peu cette partie-là, toute la partie avec Jérôme Caille peut-être, et toute la partie notamment avec ben, notre Jérôme Stewie, qui a été on lui passe le bonjour, qui a été très très fort sur les sujets sales et vous a, je pense, apporté beaucoup beaucoup de maturité. J'aimerais bien qu'on évoque ça un peu sur comment on apprend des autres pour pouvoir grandir dans une fonction comme celle-ci.
Ouais, carrément. Bah, c'était sur deux, on va dire, deux thématiques un peu différentes. Jérôme Caille nous a beaucoup aidé sur bah, notamment l'approche grand compte, l'animation aussi d'équipe commerciale. C'est vrai
OK.
qu'il a vraiment aussi le goût du challenge et puis l'approche assez directe, assez frontale. Donc assez intéressant de voilà plus structurer, on va dire, la partie aussi grand compte avec lui. Et Jérôme, pour le coup, moi j'ai passé encore plus de temps vraiment en direct avec Jérôme Stewie. Et là, c'était vraiment, enfin, je me rappelle, il disait, ça m'a marqué, et j'essaie de le répliquer. Il disait, vous devez faire du CRM vraiment la pierre angulaire bah, du blog sales. Et du coup, c'est vrai qu'il a pris énormément de temps. On a fait beaucoup de workshops pour, en fait, remettre le CRM au cœur de l'organisation sales, que ce soit pour organiser les meetings, pour suivre le pipe, pour les team meetings, etc. Enfin, vraiment le reporting, du coup, bien replacer ça. Et aussi, il nous a beaucoup aidé dans trouver la prochaine orga sales, puisque c'était pas évident. On avait des différentes villes, différents pays, et on commençait là à avoir deux segments de marché, la restauration et la santé. Donc, il y avait des gros sujets de trouver la meilleure orga pour ça.
Toujours sur la partie un peu partage d'expérience, comment toi, en fait, t'as essayé de récupérer les best practices de tes pairs dans d'autres boîtes qui sont peut-être un peu plus grosses, notamment dans la communauté autour de Serena. Et puis, à côté de ça, je pense qu'il y avait un écosystème très partageur. Comment tu t'es situé par rapport aux différents head of sales, comment tu vas chercher de l'information pour dire, ben voilà, c'est quoi les best practices, les KPI du marché, c'est ça, comment je me situe, est-ce que tu as une manière singulière de t'améliorer, et comment tu fais ça?
Dès le début, en fait, assez naturellement au début, prendre des contacts sur LinkedIn, de postes équivalents dans des boîtes. On a beaucoup échangé au début avec Tiller notamment.
Ouais.
On a fait même des sessions de coaching sur le cold call, parce qu'ils étaient très chauds sur le cold call, où on a fait un peu forming of sales par des sales managers de Tiller à l'époque.
C'est vrai que Scott Gordon, c'est tellement un super sales que il pourrait vendre n'importe quoi, donc.
Ouais, et puis à l'époque, ils avaient vraiment un manager aussi dédié sur vraiment la partie cold call SDR, qui faisait vraiment un travail assez
okay.
impressionnant. Et du coup, ouais, première approche, c'est vraiment LinkedIn. J'ai essayé de me fixer deux cafés dans le mois avec des gens qui avaient une position similaire, en tout cas les problématiques similaires, dans des boîtes qui quand même avaient un lien avec ce qu'on faisait, soit au niveau du secteur, soit au niveau du type de business.
D'accord. J'aimerais bien avoir ton point de vue pendant le premier confinement. C'était intéressant de voir en fait comment les uns les autres. Grisha, lui, s'est mis dans une bulle pour recoder from scratch Brigade. Toi, comment tu l'as vécu? Où est-ce que t'étais déjà physiquement? Et comment t'as vécu cette période où en fait le business passe de X millions de GMV à zéro? Et littéralement zéro. Et donc là, tu dis what the fuck. Comment tu vis le truc en étant in charge? Parce que finalement, tout le monde te regarde en disant mais Fabien, qu'est-ce qu'on fait quoi?
Ouais. Déjà, moi j'ai eu la chance de pas être à Paris dans un studio ou autre. Donc j'étais en Bretagne, donc plutôt dans des bonnes conditions pour se confiner et pour continuer de bien bosser. Et du coup, en fait. Ce qui a été hyper important, c'est que hyper rapidement, on s'est pas posé mille questions. On a dit on va trouver des relais de croissance, et il n'y a pas eu de temps mort en fait. Et du coup, ça c'était hyper important. Et puis ça venait de Nico, Flo et Jean. C'était on va tester plein d'autres secteurs qui sont pas fermés, qui ont des besoins. On va essayer aussi d'apporter une aide avec notre communauté d'indépendants. Et du coup, en fait, assez vite, moi j'ai repris un peu ce message, j'ai repris un peu cette guidelines pour motiver les équipes et leur dire on n'est pas mort, on est encore là, on a des téléphones, il y a plein de gens qui ont des besoins. Donc en fait, j'ai pris comme un nouveau challenge, un peu comme si je repartais un peu from scratch quatre ans auparavant. Et on se refait ma lead G sur des Excel rapides, et on se divise le pipe, et puis chacun appelle pour essayer de convaincre, de voir où il peut y avoir des besoins. Et finalement, ça fonctionne assez bien. Les équipes, ça les occupe, ça leur permet de même s'il y a du chômage partiel, de garder une activité. Et chacun se prend un peu dans le challenge de on fait ça pour sauver la boîte. Et c'est,
d'accord.
En ça, cette période a été assez dingue en termes de.
D'accord. Donc l'enjeu, c'est de sauver la boîte, continuer finalement à à aider les talents finalement à bosser, puisque
Complètement,
le business passe à zéro, mais il passe aussi à zéro pour eux.
ouais. Complètement.
Et sur la partie santé finalement qui se lance d'un côté, toi tu vois ça en mode c'est un autre track. Toi, je pense que tu te concentres sur la partie plutôt hospitality. Comment tu vois la santé de l'autre côté? Est-ce que tu dis c'est un test supplémentaire comme l'agriculture? Ou rapidement tu dis ah ça sent bon. Je pense que là il y a tous les ingrédients pour pour builder un très gros business.
Ouais. Non, assez rapidement, on voit très vite en fait la différence, puisque aussi on avait déjà un pied dans la restauration, dans la santé via la restauration collective,
Ouais.
dans l'établissement de santé, et en fait on se rend compte qu'il y a une synergie assez importante et que finalement on peut, il y a un besoin et qu'on peut réussir à convertir si on a les bons talents en face. Et du coup, assez vite d'ailleurs, on abandonne entre guillemets on avait testé le retail, l'agriculture, etc. On voit bon. C'est pas forcément notre marché, que ça prend pas comme il faut. En revanche, la santé, on sent que ça se structure et qu'il y a quelque chose, ouais. On sent qu'on peut aller accélérer.
Toujours sur la partie organisation, là forcément ton rôle va évoluer. Il y a des nouveaux C-level, slash top exec qui arrivent. Il y a Nicolas qui arrive avec toute une expérience Airbnb. D'ailleurs, je fais l'interview ce soir. Comment toi tu te réinventes dans cette organisation avec finalement plus de structuration avec d'un côté la santé? Le UK qui est centralisé, ça j'aimerais bien savoir en fait comment toi tu te réappropries la partie UK. Tu vois, est-ce que tu y vas, oui, non? Il y a tout un enjeu dans lequel il faut se réinventer. Tu parlais tout à l'heure de tu sais, de tu t'es préparé à devenir le bon manager pour pas te faire squeezer. À ce moment-là, en fait, il y a pas mal d'enjeux. L'équipe, c'est combien de sales post-confinement? Vous êtes combien
Post-confinement, ça redescend pas mal parce qu'on avait en fait on avait une grosse phase de recrutement fin 2019, début 2020, donc beaucoup de périodes d'essai. Malheureusement, on doit en arrêter pas mal et du coup, je crois que sortie du Covid, en tout cas moi sur la partie Hospitality France UK, je redémarre avec je sais pas Ben Dyssens, quoi, notre marque,
D'accord.
ouais Dyssens. Et en plus, il y avait beaucoup de sales de la partie d'Hospitality qui étaient partis tester, enfin lancer la santé,
Ah oui,
parce qu'il y
d'accord.
avait plus de besoins, donc on avait fait un peu ce switch là. Et du coup, vraiment, ouais, une équipe divisée par trois.
D'accord. Et donc à ce moment-là, toi, c'est une opportunité aussi pour recruter de nouveaux talents. Donc toi, tu chapeautes la partie hospitality, tu récupères le UK?
L'avais déjà en fait
Tu l'avais déjà?
ouais.
Ok.
En fait le UK, je l'ai lancé à l'époque avec le country manager, parce qu'on avait plutôt une logique avec des country managers où moi je m'occupais de la France et puis je faisais un peu la transition
Ouais.
des best practices avec le country manager UK, du coup j'avais suivi, alors je suis pas le manager direct mais je travaillais beaucoup avec Johan qui était le country manager UK, et du coup j'étais au courant de tout ce qui se passait, j'y allais enfin sur les 6 premiers mois de lancement j'y allais pratiquement toutes les semaines, et puis après j'y allais tous les 2 mois, j'avais quand même une bonne connaissance de ce qui se passait là-bas. Et du coup, quand il faut centraliser à Paris, parce qu'on n'a pas centralisé que le UK, on avait
Oui.
aussi 6 bureaux en France, donc on centralise ça. Donc c'est un gros enjeu en termes de management d'équipe pour réussir à garder finalement les différents sales qui étaient dans les villes. Donc il y a un gros challenge
Donc là, vous
là-dessus.
devenez un énorme centre d'appel, finalement.
Ouais, c'est justement, on essaye de se dire, ça va pas être, enfin c'est plutôt, on va pas devenir un call center, c'est pas parce qu'on centralise que voilà, ça va être un call center, mais en revanche on voit que ça fonctionne hyper bien de vendre en remote, que les restaurateurs en fait les visios, il y a pas de problème. Enfin, ça fonctionne bien en fait, et pour le coup, à la fin 2019, on avait pratiquement 7 bureaux, des sales un peu partout. Enfin, ça devenait vraiment très compliqué à entretenir la relation d'un point de vue management et d'un point de vue process, où on sentait que ça commençait un peu à être très différent d'une ville à une autre.
D'accord. Et donc, tu centralises toutes les équipes rue du Sentier? Ou vous êtes sur un seul spot?
Exactement, ouais.
Ah oui. D'accord, donc il y a un gros changement.
Très bon changement.
Et donc, t'en perds en route ou...
Ouais, mon père, bah forcément, surtout pour à Londres, où bon, c'est un nom encore, je pense, plus important. Après, on reste flexible, on permet à certains, notamment en région Bordeaux, Lyon, de garder en fait, ben, entre guillemets, de la flexibilité en restant en remote et en venant quelques jours par semaine. Mais assez compliqué à tenir dans le temps, et d'ailleurs au bout de 6 mois, tous ceux qui étaient en remote, qui vivaient pas à Paris, ont un peu lâché parce qu'on avait vraiment 98% de la boîte qui était à Paris, et c'est assez compliqué à vivre, je pense.
Et là, il y a combien de sales là quand on centralise tout et qu'on commence à repartir vers la croissance? Ça
Bah
donne
ça
quoi?
c'est au même moment. En fait c'est on a fait vraiment ça en sortie de Covid.
Ouais.
Donc moi j'ai une dizaine de sales. Après on met beaucoup d'exécutions dans le recrutement, donc assez vite on remonte à une vingtaine, trentaine, et pour finir, voilà, vraiment début 2022 à une quarantaine de sales. Donc finalement, un an, plus d'un an, on a vraiment remonté une.
Et donc 40 sales, ça se gère comment finalement donc là forcément t'as j'imagine un middle management. Comment tu les choisis et c'est quoi tes enjeux et que devient ton rôle vis-à-vis un des cofondateurs, vis-à-vis aussi de la gouvernance par rapport au board. Il y a Nicolas qui chapeaute un certain nombre de choses. Ton métier devient de communiquer de la bonne manière. Cette évolution-là, elle est naturelle ou comment ça se passe?
Ouais, elle est assez naturelle, puisque je me retire petit à petit de l'opérationnel, en laissant la main au middle manager, qui pour le coup était d'anciens sales,
Ouais.
donc une ancienne sales de l'équipe Hospitality France, enfin qui était team lead même, Candice, et puis à côté, Saruna, c'est un ancien sales plutôt senior sur le UK. Donc ça aussi, je pense que ça m'a fait gagner pas mal de temps, parce que voilà, ils étaient déjà bien en bordé, je savais que je pouvais leur faire confiance, et ce qui m'a permis moi de jumper sur un rôle plus strat finalement, en passant plutôt d'une vision au mois les mois à une vision plutôt au semestre, et du coup en effet plus de relations avec Nicolas, Flo, sur où on amène la boîte dans 6 mois, dans un an, sur.
Et tu regardes les sujets aussi M&A quand il y a des cibles potentielles. Est-ce que tu viens avec ton expertise finalement commerciale pour un peu challenger ces différents sujets?
Alors ouais, non, j'ai pas été jusque-là.
D'accord.
J'étais dans les sujets, mais plus à titre informatif, pour voir un peu comment ça pourrait s'intégrer. Mais j'ai pas été vraiment sur des audits, un audit commercial des boîtes. Ça aurait été d'ailleurs assez intéressant.
Donc, au bout de 6 ans, t'as fait un gros morceau de brigade. C'est le moment où, en fait, il y a une réflexion. Qu'est-ce qui te décide finalement à bouger alors que la boîte, finalement, lève une trentaine de millions d'euros avec Balderton? Donc, tu dis, waouh, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Toi, dans ta trajectoire et dans ton apprentissage, finalement, il y a encore. On peut faire x10 sur la GMV. Qu'est-ce qui te décide finalement à bouger?
Bah moi, ça faisait déjà plusieurs mois que je chantais on va dire, voilà, ma motivation, vraiment mon impact dans le travail qui commençait à être un peu atteint. Et du coup de prendre finalement un peu moins de plaisir dans mon quotidien, venir au bureau. Et du coup je m'étais toujours dit que ça allait être, enfin c'était une expérience extraordinaire, et que le jour où ça commençait à descendre, et que j'avais pas forcément de rôle qui pouvait relancer, ou de voilà de situation, et du coup en fait assez naturellement j'ai bien réfléchi, hein, ça a pris vraiment plusieurs mois, parce que je sais qu'il y avait des gros enjeux, que la boîte allait continuer d'évoluer, et finalement je me suis dit que j'avais vraiment envie de me rechallenger dans un nouveau secteur avec une boîte plus petite, en fait retrouver un peu cette partie de passer de 30 à plus de 100, d'ouvrir les premiers pays, les premières villes, de structurer les organisations saines, etc., avec peut-être un peu plus de flexibilité, et du coup c'est ce qui a mené fin 2022 à
à mon départ, où j'ai eu du coup une autre opportunité.
Donc t'es passé dans l'énergie,
ouais,
à voir.
Un autre
énorme sujet. Il y a le Future of Work, ça vraiment un gros morceau. Mais l'énergie, c'est un autre morceau qui est significatif. Et cette nouvelle aventure, elle est finalement, elle ressemble un peu à Brigade dans les premiers jours en termes de taille. Et t'arrives à accélérer significativement la partie commerciale par rapport à là où ils en sont. Finalement, toute expérience là, t'arrives à injecter tout ça. Comment ça se passe?
Alors c'est un peu moins quand même beaucoup moins early stage que Brigade
à l'époque.
À l'époque, c'est déjà quand même en place. En plus, c'est une boîte avec une bonne culture engine, donc au niveau process, tout est documenté déjà, etc. Donc il y a beaucoup de choses en place. Faut en revanche bien structurer, optimiser pour gérer un volume qui fait x2 depuis 3 ans et une équipe sales qui est aussi partie de zéro il y a moins d'un an et qui là se retrouve à une dizaine de personnes. Donc c'est plus un travail d'audit et de structuration, et c'est là où j'utilise énormément de choses que j'ai apprises finalement chez Brigade. On se rend pas compte, en fait, pendant 6 ans on a un peu la tête dans le guidon, et puis en fait une fois qu'on se retrouve un peu à l'extérieur, on se dit ouais, en fait c'est encore plus extraordinaire ce que vous pouvez penser.
C'est cool, c'est très cool. Si on a peut-être un, deux, trois sujets dans lesquels tu dis waouh, ça c'était quand même un challenge de ouf.
Ouais.
Si on devait les citer, tu penses à quoi? Qu'est-ce qui te, tu vois, est-ce que c'est les premiers jours? Est-ce que c'est le confinement? Est-ce que c'est d'autres des moments où tu dis putain, là j'ai vécu un truc vraiment extraordinaire et je m'en souviendrai très longtemps et qui caractérise que ton aventure chez Brigade?
Ouais. Il y en a plusieurs. Il y a l'ouverture de la première, enfin la deuxième ville, donc après Paris, Lyon,
ouais.
Où vraiment là on part pendant 3 semaines en Airbnb avec 5 sales, on se quadrille et toute la journée on rafale la ville, on va voir tous les restaurateurs, etc. Et vraiment en termes de moments à vivre avec son équipe, où on sent que en fait on est from scratch, on va aller ouvrir une ville. Ça franchement c'était un super beau moment à vivre en plus en équipe. Donc ça c'est vraiment
ça,
super,
c'est,
super.
Ok, ouais. Donc la boîte dans la boîte, ça c'est un truc qui t'a
ah,
fait.
Ouais, ça c'était ouais. Puis là, voilà, la dynamique, c'était un peu les mercenaires qui partent à Lyon et puis toute la boîte qui est derrière, envoyer des photos à chaque fois que ça avance, etc. Enfin, c'était assez stimulant. Dans le même registre, il y a eu l'ouverture de Londres aussi, où l'internationalisation de la boîte était vraiment cool à vivre. Pas que le fait, d'avoir un bureau à Londres, mais le fait que on a passé tout en anglais. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est enfin, la boîte est aussi passée vraiment dans un autre mindset et dans une nouvelle étape avec ce mouvement-là. Pour ce mouvement-là, on a vraiment ressenti qu'on devenait une boîte internationale finalement. Et ça aussi, c'était assez marquant. Et puis, je peux forcément, je suis obligé de citer le confinement parce que, comme tu l'as dit, du jour au lendemain, on perd tout notre business. Sur un truc qu'on n'avait pas du tout
anticipé.
Et du coup, pareil, en fait, une bonne claque, parce qu'on sent qu'en plus, assez vite, que ça va durer, que finalement, le plan qu'on avait pour l'année 2020, on va perdre 2-3 ans. Quoi. Et en revanche, post-confinement, je pense que ça a tellement renforcé la résilience et la culture de la boîte que c'est hyper important de dire ça.
Et à l'inverse, un moment où peut-être que tu avais sous-estimé en difficulté, il y a des moments dans des boîtes où en fait ça se passe pas comme on veut, où finalement d'avoir été là depuis le début, j'aime bien décrypter deux choses. La partie relation avec les cofondateurs, comment ça a évolué, ça c'est intéressant de voir comment toi t'as grandi, on grandit. À tes côtés. Et de l'autre côté, j'aimerais bien en fait aussi qu'on touche du doigt en fait des moments durs dans une boîte, parce qu'en fait alors il y a le confinement c'est sûr, mais plus des moments peut-être, tu vois, un vrai moment où tu dis putain là c'est vraiment compliqué, Hier, on parlait du refactoring de toute la plateforme, tu vois. Tu dis, waouh, c'est un Everest à monter et il faut le faire, quoi. Et on a 4-5 mois. Est-ce que toi, tu as vécu ce genre de choses? Genre la perte des grands comptes ou tu vois, commercialement, ça, c'était intéressant, ça. Moi, je l'ai vécu de l'autre côté, donc.
En plus, je pensais vraiment.
Tu pensais à ça? Ok.
Ouais. C'est compliqué. Ça pareil, ça arrive, c'est assez soudain. Il y a des équipes qui bossent sur les comptes en question depuis des mois, etc. Donc il y a à la fois l'impact business qui est énorme. Ça arrive en plus, entre deux confinements, je crois, enfin vraiment à cette époque-là. Donc on n'était pas encore au plus haut. Et surtout les équipes qui disent, ok, en fait, moi je suis Cam de tel compte, on ne travaille plus avec ce compte-là, qu'est-ce que je vais faire? Et ça, en effet, pas évident. Ça tombe assez rapidement, très vite. On sent que il y a plusieurs comptes qui sont touchés. Et en effet, ouais, ça, c'était plus vraiment sur la partie management qui était pas évident, quoi.
Et puis creuser et comprendre ce qui s'est passé, la root cause, parce que tu as des effets politiques, tu as des effets commerciaux, tu as l'envers du décor, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Toi, tu creuses à ce moment-là ou finalement, c'est plutôt le rôle de Flo de...
Non, je creuse parce qu'en fait, je suis en direct avec pas mal de comptes concernés.
Okay.
Je les ai vraiment au téléphone et il y en a même où c'est... Parce que certains sales avaient de très bonnes relations, donc c'est les sales qui nous rapportent ce qui est en train de se passer. Et du coup, c'est assez... c'est assez assez compliqué à gérer, prendre beaucoup de recul. Après, on a de la chance, c'est que ça soit Jean, Nico ou Flo, enfin voilà, c'est, on peut dire qu'ils sont plutôt très résilients et que en fait une épreuve ça nourrit plus entre guillemets à la bête qu'autre chose, quoi. Et du coup assez vite on voit, ok, c'est pas grave, on va réussir, on va retourner comme ça, on va se réorganiser comme ça, enfin que ça soit dans le confinement ou là dans cette épreuve, très vite on a dit, ok, on va faire comme ça et on avance et on se pose pas une question non plus, quoi.
C'est cool. Et sur la relation avec Flo, je pense à Antoine de Checkout qui a une relation très particulière avec Guillaume le CEO, dans lequel il a vraiment le pareil comme toi, il est arrivé très tôt dans l'aventure, il a grandi avec lui et donc tu as une sorte de mentoring. Comment toi ça s'est dessiné la relation avec Flo qui lui aussi a grandi dans son rôle? Comment tu t'es nourri de ça? Est-ce que ça t'a donné envie d'entreprendre? C'est quoi un peu c'est quoi votre histoire?
Ouais, vraiment. En fait, déjà, le premier entretien que j'ai fait, avec le fondateur de Brigade, je suis ressorti et je me suis dit, ok, c'est hyper important, je veux bosser avec eux. Enfin, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Donc, le choix était assez facile parce que je l'ai ressenti entre guillemets et pour le coup on travaillait au début de manière très très proche, puis après il y a eu Nico Nicolas qui est arrivé et du coup qui est devenu mon manager, mais on a toujours gardé c'était moins opérationnel mais toujours des moments d'échange, que ce soit en déj, en verre, etc. On levait un peu la tête et sur la vision de Brigade, etc. et ça c'est toujours hyper important de garder déjà beaucoup de transparence de sa part avec de gens aussi de continuer d'avoir ces échanges là, et en effet ça a nourri pas mal d'envie d'entreprendre de mes côtés pour le coup, parce que je trouve que ce soit Flo et Jean, c'est des beaux exemples et ils m'ont vraiment donné envie de plus tard j'espère monter une belle boîte.
Bon, c'est très cool, j'ai l'impression que tu auras Brigade dans ton cœur pour des décennies. Un grand merci Fabien. On a bien compris tout ton chemin pendant ces six années passées chez Brigade. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle venture. Et puis j'ai hâte de voir le résultat.
Merci beaucoup.
À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao.